Radio Okapi. Pascal Masirika pour les journaux.
Les titres du journal, le rassemblement de l'opposition décale de deux jours sa manifestation initialement prévue le 28 novembre pour réclamer une nouvelle transition en RDC. En revanche, la majorité présidentielle annonce pour cette même date une autre manifestation pour soutenir la tenue des élections l'année prochaine. Ouverture ce mercredi à Kinshasa et pour deux jours de l'Assemblée générale de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Au menu, des questions sur les enjeux sociopolitiques de l'heure en RDC. Et puis, à qui appartient le bâtiment qui abrite l'université de Bounia et qui est à la base d'un conflit avec le commerçant David Banga? La réponse dans ce journal avec Grégoire Lusenge, membre du caucus des députés de l'Ituri. Il est l'invité de Radio Okapi. Madame, messieurs, bonsoir. Et d'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir à l'Assemblée nationale. La plénière a rejeté ce mercredi l'examen du projet de loi des finances de 2018, alors que le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze est au Parlement accompagné de tout son gouvernement pour défendre le budget. Dans sa motion d'ordre, le député national du G7, Ekombe Mpeti, s'est opposé carrément à l'examen du budget avant le vote de la loi sur la reddition des comptes conformément à la Constitution. Cette position a été soutenue par l'opposition et votée par la majorité de députés nationaux. Conséquence, l'examen du projet de loi des finances est renvoyé à une date ultérieure. Le rassemblement de l'opposition décale de deux jours sa marche initiée pour le 28 novembre. Le porte-parole de l'UDPS, parti politique membre de cette plateforme politique, affirme que cette manifestation est renvoyée au 30 novembre. Objectif visé, exiger une nouvelle transition en République démocratique du Congo. Augustin Kabuya le dit au micro de Jeff Ngoy.
C'est une décision responsable. Vous avez tout suivi à travers les médias. Au moment où les rassemblements avaient déjà projeté une manifestation le 28 de ce mois, à la même date, les amis de la majorité présidentielle avaient aussi arrêté la même date. C'était une façon de nous pousser à la violence, à un affrontement. Mais cette décision est un message de l'éthique et de morale que nous avons lancé à l'opinion. Et nous allons organiser notre manifestation le 30. Et le problème est réglé.
Quel est le but de cette marche?
D'abord, du point de vue constitutionnel, les manifestations sont autorisées. Quand l'opposition constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas au pays, l'opposition est dans l'obligation de projeter des manifestations. Mais notre manifestation a pour but de demander le départ de M. Joseph Kabila. Nous voulons avoir une transition sans la personne de Joseph Kabila. Nous avons signé un accord politique avec lui et l'accord ne prévoit même pas une quelconque prolongation si les élections ne sont pas organisées.
En réaction à cette préoccupation, la majorité présidentielle salue le sens élevé de la démocratie dont a fait montre l'opposition en décalant cette manifestation. Dans une déclaration faite ce mercredi à Kinshasa, le secrétaire général adjoint de cette plateforme a indiqué qu'il n'est nullement question d'une confrontation quant au choix de la date. Joseph Kokonyangi espère que les deux manifestations se dérouleront dans la paix en vue de soutenir la marche irréversible vers les élections transparentes, démocratique et apaisée. Il est dit à Jacques Yves Molima.
La réaction de la majorité est positive. Nous saluons cet esprit d'ouverture de l'opposition, de pouvoir se faire des concessions. C'est un esprit réellement démocratique. Nous sommes de ceux-là qui ne voient pas les choses en rouge en tout moment. Au moins aujourd'hui, nous avons vu un pas positif de la part de nos compatriotes du Rassemblement et consorts. Nous signalons que la majorité présidentielle n'a pas voulu court-circuiter la date prévue pour la marche de l'opposition, et c'était une coïncidence. Voilà pourquoi nous maintenons notre date du 28, pour montrer à nos compatriotes que ce n'était pas une confrontation. Nous avons informé le gouverneur, je pense que la réponse est toujours positive, même que nous l'attendons encore. Mais aujourd'hui, nous allons écrire au gouverneur de la province pour demander une deuxième marche le 1er décembre.
Journée ville morte ce mercredi à Bukavu à l'appel de la société civile. Sur le terrain, certaines activités ont eu lieu, d'autres non. Même constat du côté des écoles où certaines ont ouvert et d'autres pas du tout. Les organisateurs de cette journée ville morte disent exiger la célérité dans le vote de la loi électorale à l'Assemblée nationale ici à Kinshasa. Le compte rendu d'Emmanuel Elamegi.
La société civile dit faire pression aux députés nationaux afin d'accélérer le vote de la loi électorale avant la fin de ce mois. Ce mercredi avant midi, la principale artère, le boulevard Lumumba, est fréquentée de monde. À peine quelques mototaxis roulent d'Ngouba à la botte. Toutes les écoles conventionnées catholiques ont ouvert leurs portes. Certaines autres écoles primaires et secondaires ont renvoyé quelques élèves qui sont présentés le matin. Toutes les stations-service ont ouvert. Les portes des principales banques commerciales sont fermées. De Nyawera à la place rouge. La plupart des magasins et boutiques n'ont pas ouvert. Au marché central de Kadutu, les étalages sont vides. Le marché de Ngouba est sans activité habituelle. Claude Nyamugabo, gouverneur de province, s'est personnellement rendu au marché central de Nyawera pour encourager la population marchande. Les organisateurs de la journée Ville Morte reconnaissent que la mobilisation n'a pas été totale pour la réussite de cette manifestation. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu, Radio Kapi.
Et puis, Franck Diongo n'a pas été déchu de ses droits civiques. Il est éligible et peut être électeur. Déclaration faite ce mercredi ici à Kinshasa par le directeur intérimaire du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. C'était au cours de la conférence hebdomadaire. Abdul Aziz Thioye s'est référé à la lettre du ministre de la Justice sur cette question et en réaction aux propos tenus récemment par le président de la CENI, Corneille Nangaa, qui affirmait que Franck Diongo n'est pas pouvait pas s'enrôler parce qu'il était condamné en dernière instance par la Cour suprême de justice. Ces propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Koko.
Nous avons suivi les déclarations du président de la CENI. Je vous renvoie à la correspondance du ministre de la Justice. Nous avons été également informés que le 31 octobre 2017, le ministre de la Justice, M. Alexis Tambwe Mwamba, a adressé une lettre au président de la CENI, lui rappelant que M. Diongo n'avait pas été déchu de ses droits civiques lors de sa condamnation et que l'exclusion à l'enrôlement ne pouvait provenir que de la loi électorale. Aussi, je tiens à l'appeler que tout détenu, comme tout détenu, devrait avoir le droit de participer aux élections en exerçant son droit de vote, vu qu'il n'a pas été déchu de ses droits civiques. Donc, il est éligible et il peut être électeur. Nous allons continuer à suivre ce cas et vérifier si les dispositions ont été prises conformément à la lettre du ministre de la Justice. Voilà. Je pense que c'est clair.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce mercredi ici à Kinshasa de l'Assemblée générale de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Au menu de ces astuces des 48 heures, des questions liées aux enjeux sociopolitiques de l'heure en République démocratique du Congo. Des précisions à ces sujets avec le secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donatien Cholet, et joint par Suzanne Zobondra.
La matière principale, c'est le paysage socio-pastoral, l'analyse du processus électoral, les questions d'actualité. Ouais.
Est-ce que les deux rapports publiés récemment par la commission Justice et Paix seront aussi passés en revue?
Bon, les évêques ont pris connaissance de cela, mais comme c'est une session extraordinaire, ils vont plus se concentrer sur les questions du processus électoral.
Publication aujourd'hui mercredi à Kisangani du nouveau gouvernement provincial de la Tshopo, 55 jours après l'investiture du gouverneur Constant Lomata. L'équipe du deuxième gouverneur de la Tshopo comprend 9 ministres provinciaux dont une femme. Seulement voilà, aucun membre de l'opposition ni du PPRD n'y figure. C'est ce que nous raconte Donatien Aliana Alipanagama.
L'arrêté portant nomination des membres du gouvernement provincial de la Tshopo a été signé hier par Constant Lomata, gouverneur des provinces. C'est une équipe de 9 ministres provinciaux, dont 6 de la majorité présidentielle, 2 indépendants et 1 de la société civile. L'unique femme de cette équipe, Bernadette Foura, est issue du collectif des femmes de la société civile. 4 autres ministres sont des députés provinciaux. Il s'agit de Jean-Michel Bondekwe, indépendant, Cyprien Eribaraka du PDC, Gabriel Bambembe de l'ACO et Pierre Nendolo de l'AFDC. Professeurs de l'université font également partie de l'équipe gouvernementale. Il s'agit de Patrick Matata, indépendant et candidat malheureux aux élections du gouvernement du mois d'août dernier, et son collègue Jean-René Ayaka du PDC. Enfin, Maître Aubin Akamba du PDC et Idelphonse Lokango du CCI en font également partie. Le PPRD est absent de ce gouvernement Lomata. Les raisons seront communiquées ultérieurement, a affirmé son président fédéral de la Tshopo, Donatien Aliana Lipanagama, Kisangani, Radio Kapi.
Dans la province du Congo central, le directeur provincial de la chaîne de télévision CCTV, Matadi, dénonce la vente de sa fréquence par l'ARPTC à une nouvelle chaîne de télévision installée dans cette ville. Patrick Palata précise que c'est après vérification et achat des nouveaux matériels que les techniciens ont constaté qu'une autre chaîne de télévision émettait sur cette fréquence. Il affirme que tous les responsables des services concernés ne reconnaissent pas cette chaîne de télévision qui émet sur la fréquence de CTTV. Il est joint par Guiroje Nyampala.
CTTV Matadi émet sur Canal 30 depuis plus de 10 ans. Mais voilà que Maximo débarque avec ses équipements et les place sur le même canal 30 que CCTV pour le compte d'IGTV. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas émettre, et ça fait plus de 2 semaines que notre signal est coupé, attribuer un canal existant déjà appartenant à un média à un autre. C'est pour nous un désir de nous réduire au silence, et ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas légal. Et moi, je suis allé voir toutes les instances là. Au niveau provincial, ils ne les reconnaissent pas. C'est quand même curieux. Vraiment, c'est un manque à gagner terrible pour nous. Et ce qui est réconfortant, c'est que les autorités compétentes du Congo central ne les reconnaissent pas. Ils parlent eux-mêmes des APTC Kinshasa, mais je crois qu'ils devraient peut-être consulter ceux du Congo central pour savoir quelles étaient les fréquences libres, les canaux libres. Il y en a.
J'ajoute qu'au ministère central des postes et télécommunications ici à Kinshasa, l'affaire n'est pas connue. Le secrétaire général promet de se pencher sur la question. Tous nos efforts pour joindre les responsables de l'autorité de régulation sont restés vains. Nord Kivu à présent, retour au calme dans la commune d'Oicha, en territoire de Beni, après la protestation de la population contre l'assassinat d'un élève lundi soir par des présumés militaires des FARDC. Un conseil local de sécurité élargi s'est tenu ce mardi à ces sujets. Le rapporteur de la société civile qui a pris part à cette rencontre a fait 2 recommandations aux autorités locales pour mettre un terme au conflit qui existe entre les nouvelles unités des FARDC déployées dans la zone et la population. Janvier Kasereka s'est confié à Kizabiamungu.
Les 2 grandes recommandations que nous avons données à l'autorité civile et l'autorité militaire, nous attendons les commandants de la 3e zone de défense, donc le général Lom Chale, pour qu'ensemble avec lui, on essaie d'examiner cette question d'unité nouvellement installée à Ouicha qui pose problème de collaboration, de cohabitation, avec beaucoup de cas enregistrés d'extorsion, de menaces de mort, de tuerie et autres. À la 2e recommandation, nous attendons l'arrivée du gouverneur dans 48 heures et fallier quelles sont les attitudes de collaboration des parties prenantes doivent être menées. Et aussi, la prise en charge de certains services qui posent problème par rapport aux moyens. Donc, nous estimons que ces 2 grandes autorités ou ces 2 grandes instances pourront nous aider à relayer les vrais problèmes qui peuvent nous aider à rétablir la zone. Surtout que nous sommes dans une zone à turbulence.
Nord Kivu encore, le statut du parc national de Virunga est un blocage à l'éradication du phénomène Mai Mai sur et autour du lac Édouard. C'est la réaction du porte-parole des opérations Sokola 2 face aux attaques et tracasseries récurrentes qui sont infligées par ces miliciens aux pêcheurs. Dimanche dernier, souvenez-vous, 32 moteurs hors bord appartenant aux pêcheurs de Kavinyongé ont été saisis avant d'être restitués après une rançon. Le major Njike Kaiko dit que des dispositions sont à l'étude. Il s'est confié à Bernard Danyangi.
Il n'y a pas de cela très longtemps, nous avions mis hors d'état de nuire tous ces inciviques. Mais il y a aussi un problème qui se pose, c'est que cette partie de la province se trouve bel et bien dans le parc. Nous n'avons pas le droit d'aller rester dans le parc. Nous sommes alertés par rapport à la présence des groupes armés. Nous allons, nous les mettons hors d'état de nuire et c'est aux gardes des parcs de l'ICSN de continuer à sécuriser la zone. Il est vrai que nous l'avons aussi constaté, que chaque fois que nous laissons le travail, là, ces inciviques reviennent encore avec des attaques sporadiques. Mais pour rassurer notre population, il y a un travail qui est en train d'être fait en ce moment pour que ces coins soient sécurisés d'une manière définitive.
Actualité, Afrique Monde.
Et maintenant les nouvelles de l'étranger. Commençons par le Zimbabwe. L'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, qui doit succéder au président démissionnaire Robert Mugabe, est rentré au pays ce mercredi. Emmerson Mnangagwa, qui était en exil depuis son éviction du gouvernement début novembre, a rencontré le bureau politique de la ZANU-PF, le parti au pouvoir sur la base aérienne de Manyangé à Harare, la capitale. Son investiture est prévue vendredi prochain. Pour rappel, après 37 ans de pouvoir, Robert Mugabe a démissionné hier mardi sous la pression de l'armée du pays qui a pris le contrôle du Zimbabwe dans la nuit du 14 au 15 novembre de la rue et de son parti politique. La formation politique qui a propulsé Mnangagwa à la présidentielle de 2018 en remplacement de Robert Mugabe. Et puis la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen a annoncé aujourd'hui mercredi la réouverture du port d'Odeida et de l'aéroport de Sanaa pour l'aide humanitaire après des appels pressants de Nations Unies à faciliter la reprise des opérations de secours dans le pays en guerre. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le conflit qui sévit au Yémen a fait, depuis l'intervention de la coalition militaire arabe en mars 2015, plus de 8750 morts et 50 600 blessés, dont de nombreux civils. En outre, le pays connaît la pire crise humanitaire de la planète, selon les Nations Unies. La coalition sous commandement saoudien est intervenue au Yémen pour stopper la progression de ces rebelles yéménites. Elle avait imposé un blocus total au Yémen après le tir le 4 novembre d'un missile balistique par les rebelles en direction de l'Arabie Saoudite. L'engin avait été intercepté au-dessus de l'aéroport international de Riyad.